Bon, nous allons écouter maintenant le dernier exposé de cette série extrêmement riche, donc Jérôme Bourgon, quasi fondateur de l'histoire du droit chinois en France, enfin pas tout à fait, mais d'une certaine manière, refondateur, voilà, c'est ça. Donc va nous parler de... attendez, vous aviez un titre, c'est là, des châtiments bien tempérés. En partant de cette expression qu'on retrouve dans les titres de nombreux manuels ou textes, pas forcément manuels d'ailleurs, mais textes émanant de juristes des Ming et des Qing, et sans doute avant, cette expression des châtiments prudents, donc qui ouvre à toute une série de, enfin, toutes sortes de considérations, et pour lesquelles vous vous appuyez donc sur toute une série de manuels dont la liste d'ailleurs se trouve, voilà, se trouve dans l'abstract que je pense à peu près tout le monde a vu. Voilà.
Alors oui, en effet, merci Pierre Etienneville et merci de l'invitation et de cette possibilité de soumettre une hypothèse en fait, puisque mon ambition à travers cette devise Shenxing, c'est d'essayer de délimiter et de présenter un genre particulier de traité, un genre qui n'apparaît pas comme tel dans la bibliographie, qui est un petit peu trans-catégorie de la bibliographie, c'est-à-dire que je n'ai pas pris la précaution de regarder d'où venaient les différents ouvrages que je propose hein, d'analyser. Je n'ai pas regardé exactement à quoi ils correspondaient dans la bibliographie, mais en gros, ils sont dans les ouvrages juridiques, bien évidemment. Mais c'est un genre que je propose de voir en filigrane dans la bibliographie. Et ce qui m'intéresse, c'est de chercher la cohérence, qui est en fait une cohérence doctrinale de ce genre, et qui, à mon avis, donne une idée assez précise de ce qu'était la qualification juridique, puisque c'est toujours un peu ce qui m'occupe, c'est-à-dire essayer de définir ce que c'était que le droit chinois et ce que c'était que des conceptions juridiques des juristes chinois. Parce que je crois que l'utilité de la bibliographie de Pierre Etienneville, c'est non seulement de fournir des catégories déjà existantes, mais aussi de permettre des parcours originaux et de faire des rapprochements entre différents types d'ouvrages, et c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, j'ai un plan qui est finalement assez simple, il y a deux grandes parties. D'abord, le genre tentative de définition, donc la notion Shenxing dans la pensée classique. Alors, ce n'est pas la même, j'expliquerai tout à l'heure, il y a Shenxing et il y a Shenxing. Je reviendrai là-dessus. Ensuite, tentative d'inventaire, en montrant que le grand intérêt de ce genre, c'est qu'il est à cheval entre la pratique, il a un côté très pratique, mais en même temps, on ne peut le comprendre vraiment et le circonscrire qu'à partir du moment où on saisit ses bases doctrinales. Alors, donc, ça nous amènera à essayer d'analyser ce noyau doctrinal, sens des classiques et cas historiques, tel qu'il est vraiment très bien représenté par un ouvrage que je présenterai, qui est l'ouvrage de Wuna, le Xiangxing Yaolan. Et ensuite, alors, j'essaierai d'analyser ce qui est le plus intrigant, le plus original et en même temps le plus difficile à comprendre dans ce noyau doctrinal, c'est-à-dire l'utilisation d'hexagrammes du livre des mutations, qui est une utilisation donc judiciaire ou même juridique. Pourquoi avoir utilisé ces figures très particulières que sont les hexagrammes pour représenter des fonctions judiciaires et des principes juridiques? Alors, voilà, quelques rappels sur l'idée des mutations. Je présenterai les six hexagrammes, leur sens, leur lien, et puis j'essaierai de comprendre ce qu'ils représentent, une chaîne d'une pensée de l'action, et puis nous verrons quelques exemples d'application de ces hexagrammes. Et en conclusion, des réflexions sur le problème de la didactique, puisque c'est le thème central de la bibliographie, et sur justement le type très particulier de didactique que représentent ces hexagrammes, et aussi, d'une manière plus générale, les traités sur Shenxing et Shangxing. Alors justement, comment est-ce qu'on peut reconnaître ces traités? Eh bien, grâce à des termes qui apparaissent généralement dans les titres ou bien dans des parties importantes comme sous-titres, en quelque sorte, de parties importantes. Alors le plus important, enfin le plus caractéristique, c'est celui-ci, Shenxing, qu'on retrouvera dans plusieurs titres que je citerai tout à l'heure, qui signifie « utiliser les châtiments avec prudence, de manière précautionneuse ». Autre expression qu'on rencontre beaucoup dans les titres, peut-être encore plus, j'aurais pu l'utiliser aussi pour le titre de cet exposé, c'est « xiangxing ». Et c'est une expression assez difficile à traduire, ça signifie des châtiments de bon augure, ou auspicieux, mais auspicieux en français, je crois que ça ne signifie pas exactement la même chose, et je crois que la traduction anglaise courante est auspicious. Et il y a une citation un peu plus loin qui nous permettra de préciser le sens que ça peut avoir. Il y a un autre sens qui est plus rare, mais qui est important historiquement, qui est Xixing-U, qu'on pourrait traduire par user des peines et prison, parce que Xing, c'est les peines ou la torture, et U, c'est la prison. Avec pitié, Su, c'est avec pitié ou compassion. Et c'est un terme important parce que c'est celui qui a servi d'enseigne, en quelque sorte, à la grande réforme de 1902, plutôt, dans les mémoires de réforme proposées par Zhang Zhetong et Liu Kunyi, pour réformer complètement le système pénal et notamment abolir les peines cruelles et la torture. Tout ça était sous l'étiquette ou sous le titre de Xixing-U. Et donc ça démontre le côté réformateur de cette catégorie, de cette notion. Et enfin, la notion de Shangxing, qui est une prononciation presque identique, Shangxing qui signifie économiser les peines. Économiser au sens très comptable, quasiment comme on économise de l'argent, ou par exemple comme on économise des munitions. Hein, qui veut gouverner longtemps ou qui veut garder une certaine autorité doit être capable d'économiser les peines. Et ça, cette expression-là, c'est celle qui a peut-être le plus de lettres de noblesse d'un point de vue classique, puisqu'on la trouve sous le pinceau de Confucius. Alors, c'est une citation de Confucius qui est sans doute apocryphe, hein, qui se trouve dans aucun ouvrage attribué à Confucius, mais qui se trouve dans le Xing Fa Zhe, c'est-à-dire le traité des lois pénales du Han Shu. Alors, Kong Zhe Yue, Ku Zhe Zhe Fa Zhe, Nam Shang Xing, Ben Ye, Din Zhe Zhe Fa Zhe, Bu Shi Yo Cui, Mo Ye. Alors, voilà comment je comprends cette citation. Autrefois, les juristes savaient être économes de sanctions pénales. Ils tenaient la racine, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment une compréhension profonde du système pénal, une compréhension générale. À présent, les juristes, je pense que cette expression Sheyotzwe, c'est ne manque pas un coupable. Ils cherchent à punir systématiquement toutes les infractions. Et ils ne tiennent que les branches, c'est-à-dire ils ont une compréhension littérale ou superficielle du code pénal. Et c'est une notion dont Chen Li, en fait, a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire le fait de chercher systématiquement à appliquer littéralement la loi, c'est une conception superficielle de la loi. Parce que la bonne conception, c'est que la loi, comme le filet dont parlait, je crois, Christian Lamoureux, doit pouvoir laisser passer des choses. Il est impossible de tout punir. Autrement dit, il y a un art de comminer les peines. C'est-à-dire que les lois pénales ne sont pas faites pour être toutes systématiquement appliquées. Il faut pouvoir les brandir, parce que leur véritable rôle, c'est de dissuader et essayer d'éviter de punir systématiquement. Essayer de punir finalement le moins possible pour optimiser la fonction répressive ou la fonction dissuasive et minimiser au maximum la fonction punitive. Parce qu'on essaye d'utiliser la loi pour l'avenir, pour éviter que les gens commettent de nouveaux crimes, plutôt que pour la vengeance ou pour la punition. Alors ça, c'est une première compréhension du terme Shangxing. On le trouve également chez Mencius, dans un passage relativement célèbre, dans un dialogue avec un souverain, le roi Hui de l'état de Liang, à qui Mencius administre un certain nombre de leçons sur la manière de gouverner. Ce roi est très inquiet, il est à la tête d'un petit royaume, et il vient de subir des défaites, et il craint beaucoup d'être absorbé par ses voisins, dans un contexte de royaume combattant. Et Mencius va lui apprendre comment faire que ses sujets soient tellement attachés au prince, que même avec des bâtons, il soit capable de repousser les armées les mieux armées et les plus puissantes. Et pour ça, donc, il y a une espèce de programme de gouvernement type qui lui présentait, alors qui est assez long, hein, j'ai vraiment sélectionné le tout début de la citation, et qui dit la chose suivante: le souverain, s'il pratique un gouvernement bienveillant envers le peuple, en économisant les peines corporelles et les amendes, en limitant les impôts, cela encouragera les sujets à labourer profond, à soigner les cultures. Puis après, il y a tout un enchaînement, donc ils auront plus de temps pour les cultes familiaux, ils seront plus attachés à leurs parents. Bref, on aura un cercle vertueux qui permettra le renforcement de l'État. Et ce que je tiens à faire remarquer, c'est que donc Shangxing, économiser les peines, est la première mesure, c'est ce qui vraiment enclenche le cercle vertueux. Et ce qui indique bien la place extrêmement importante que peut avoir cette notion dans l'ensemble de la conception gouvernementale dérivée de Mencius, qui est en fait la conception de la science de gouvernement. Alors, passons à des choses maintenant moins théoriques. c'est-à-dire la conception de Xiangxing, la notion de Xiangxing, la peine comme moindre mal. Et j'ai tiré c'est le tout début, c'est le premier mot en fait d'un traité, la première partie de la préface d'un traité qui m'a été signalé d'ailleurs par Pierre-Étienne Ville, le Xiangxing Dingjie, c'est-à-dire l'explication des classiques pour des peines de bon augure, on pourrait traduire ça comme ça. Le souverain gouverne le monde par la bienveillance et la justice. Lorsque le rite et la musique ont épuisé leurs effets civilisateurs, il doit avoir recours aux peines. La fonction des peines est de faire vivre les hommes et non de les tuer. Et c'est pour cela qu'on parle de Xiangxing, de peine de bon augure. C'est cela que signifie peine de bon augure, c'est-à-dire les peines doivent servir à faire vivre et non pas à tuer. Alors, explication, le ciel a pour vertu d'aimer la vie, il produit ou fait vivre les hommes. Ceux-ci ont un cœur qui connaît la crainte, une chair qui connaît la douleur. Le ciel a dû doter les gouvernants du pouvoir de punir à cause des maux causés de tout temps par les crimes, les massacres, les cruautés sans nombre. L'humanité en aurait bientôt disparu. Autrement dit, on retrouve là un argument qui est assez banal, finalement, assez bien connu, qui est celui des utilitariens. C'est-à-dire un système pénal, certes, produit des maux, mais c'est toujours le principe du moindre mal, c'est-à-dire qu'il doit... on doit utiliser des peines pour éviter que les gens se massacrent et pour éviter des maux qui seraient bien pires. Alors, on n'est pas obligé d'adhérer à ce raisonnement, mais simplement de reconnaître que c'est toujours la justification de base de tout système pénal et que le raisonnement reste valable seulement si les peines sont bien tempérées. Il faut à tout prix que le système pénal soit gardé sous contrôle, sinon le remède deviendrait pire que le mal. Hein, et il n'y aurait plus aucune justification au système pénal. Alors, passons directement à l'étude de notre genre, donc ce que je propose de considérer comme un genre, avec ces 30 ouvrages qu'en effet j'ai fait passer, et qui sont assez bien. Enfin, la diversité du genre est assez bien représentée par 3 ouvrages qui portent le même titre, qui est finalement relativement fréquent, puisque quand un ouvrage a du succès, on voit très souvent des imitations, ou en tout cas le titre est repris parce que c'est un bon argument commercial. C'est peut-être ce qui s'est passé là. Donc l'ouvrage de base, l'ouvrage original, c'est le Xiangxing Yaolan de Wuna, publié en 1442, qui est l'ouvrage fondamental pour le genre que j'essaye de décrire. C'est l'origine et le modèle. Et notamment, nous attarderons sur la présence des citations classiques et des cas historiques qui en constituent vraiment le centre, le noyau doctrinal. Donc ça, c'est, je dirais, ce qui représente ce que j'appellerais le pôle doctrinal, le noyau dur du genre. Mais on trouve donc en 1585, par Shi Zhejiang, un ouvrage qui porte le même titre, qui est un très petit recueil, et qui se trouve en fait annexé au Jepu, dont Tom Nimick a parlé hier. C'est dans le Jepu Shudi, hein, et donc c'est annexé à une anthologie qui est d'esprit extrêmement pratique. Et en effet, ce Xiangxing Yaolan-là ne ressemble pas du tout au premier, parce qu'il rassemble des directives extrêmement pratiques. C'est une série de directives concernant principalement la procédure, l'utilisation des châtiments, etc. Et enfin, on a un troisième Xiangxing Yaolan par Yu Kun, donc qui est un fonctionnaire des Qing, lui, tout ça était sous les Ming, maintenant on est passé sous les Qing, c'est en 1695, et on a également une anthologie des savoirs pratiques qui ressemble au Jepu, enfin qui est un peu du même type que le Jepu, mais qui emprunte le type de Xiangxing Yaolan. Et j'ai pris cet exemple parce que là, on a bien une approximation de ce qu'est le genre lui-même, c'est-à-dire un genre très divers et qui oscille de manière permanente entre la doctrine et la pratique. Et mon pari, enfin mon ambition, c'est d'essayer de montrer qu'il y a un rapport profond nécessaire entre la doctrine, entre les aspects doctrinaux et les aspects pratiques. Alors justement, prenons un autre traité qui est le Duquan Shenxing Lu. Alors là, on retrouve le terme Shenxing, hein, donc répertoire pour une utilisation prudente des peines, et par un magistrat en poste. C'est-à-dire que voilà un ouvrage paru en 1874 qui se présente vraiment comme un ouvrage pratique, puisque un ensemble de choses collectées par un fonctionnaire en poste. Ce fonctionnaire, c'était Liu Kongchun, qui a fait 30 ans de carrière principalement au Henan et qui a terminé donc préfet au Henan et qui est mort en poste. Et l'ouvrage a été publié en fait par ses fils. Et cet ouvrage est intéressant dans la mesure où il est composite et qu'il rassemble divers aspects. Il rassemble les divers aspects de notre genre et que ça, il peut servir efficacement de guide pour la tentative d'inventaire que je me propose de faire. Donc c'est à travers ce Duquan Shanxinglu que nous allons visiter les principaux aspects du genre et au fur et à mesure, je ferai un certain nombre de comparaisons avec d'autres ouvrages plus spécialisés. Je ne sais pas si c'est clair. Donc le Duquan Shanxinglu, c'est une espèce de recueil général qui va nous permettre de voir différents aspects et pour ces différents aspects, je citerai d'autres exemples de traités. Alors on va commencer par ce que j'appelle le pôle pratique. Donc, le premier chapitre, le Duan numéro 1 du Quan Shanxinglu, renferme des mémoires et des décrets sur les codes pénaux. Je passe très vite, ce n'est pas le plus intéressant, mais enfin, bon, c'est quand même, ça donne bien évidemment des informations sur la nature des lois promulguées. Le plus intéressant dans l'immédiat, c'est les Duan 2 et 3, qui comportent des règles de procédure sur les instruments de peine. Et ça, c'est un aspect extrêmement important du droit chinois en général, et notamment de ce courant qui veut modérer les peines, c'est une description extrêmement précise des instruments autorisés pour l'ensemble des peines, alors que ce soit les coups de bambou, puisque ce sont les deux premiers degrés, que ce soit pour la torture, que ce soit aussi pour d'autres peines, les peines de mort, etc. Donc on commence par bien décrire les instruments et aussi la manière de s'en servir. Par exemple, on donne des coups de bambou, mais on les donne uniquement dans certains endroits, les fesses ou le bas du dos, et si on les donne ailleurs, c'est illégal et punissable. Donc c'est un aspect très concret, mais ça fait partie aussi de la modération, du souci de modération des peines. On a tout un aspect qui est la loi et les sanctions sur les fautes des fonctionnaires juges, et on va trouver de manière liée des extraits du Xingjie de Lu Kun, dont on a aussi parlé à propos du Shejianglu, donc les avertissements sur les peines, qui sont à la fois des avertissements moraux, des avertissements, des exhortations aux fonctionnaires à prendre garde, mais aussi qui sont reliés au traité sur les mérites et les démérites, hein, les kongkuoke, dont on a aussi beaucoup parlé, donc je peux passer assez vite là-dessus. Donc ça, c'est tout l'aspect réglementaire et la manière dont on prévient que le magistrat qu'il va être jugé sur la base de son respect des lois et de la modération des peines prévues par les lois. Et un des aspects les plus intéressants de cet ensemble, donc de procédures très pratiques, c'est le Shenxingshu, alors toujours le même terme, hein, donc le propos sur l'application prudente des peines, par Wang Kentang, dont on a également beaucoup parlé, notamment Chen Li, puisque c'est le grand commentateur du code des Ming, mais dont le commentaire continue à faire autorité sous les Qing également. Et on a vu que, enfin, je ne sais pas si on l'a dit exactement, mais Wang Kentang, donc, au départ, était un médecin qui a dérivé, en quelque sorte, dans le commentaire du code par piété filiale, puisque c'est son père, Wang Qiao, dont a parlé Peng Chang, qui avait commencé le commentaire. Il l'a continué. Alors, que nous dit Wang Kentang ? Là, c'est une petite dérivation sur ce que nous dit Wang Kentang dans son traité. D'une part, il commence par définir très précisément les différentes catégories de crimes, parce que pour avoir un emploi prudent des peines, il faut maîtriser pleinement déjà les catégories de crimes. Il faut parfaitement percevoir ce que c'est qu'un homicide, des crimes sexuels, et avoir déjà dans la tête l'ensemble des critères de gravité des crimes, afin d'apprécier exactement la gravité de la peine. Et un autre traité qui sert à ça, que j'aurais pu citer également, c'est le Tulusinte de Liu Heng, hein, qui rassemble toutes les règles pour non seulement apprécier la gravité de la peine, mais aussi pour les aggraver, pour aggraver la peine ou pour la diminuer selon les circonstances. Et on trouve également ensuite dans l'ouvrage de Wang Kentang ces choses assez intéressantes, que j'ai trouvées curieuses à montrer. Ce sont des règles alors, vraiment très pratiques pour savoir quand est-ce qu'on peut ou pas appliquer des coups de bambou à titre disciplinaire ou pour l'interrogatoire. Alors, déjà, il y a Wubuta, 5 catégories à ne pas frapper. Non, mais... Alors, ce sont les personnes âgées, alors je crois à partir de 60 ans, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 60 ans, les jeunes, en dessous de 14 ans, je crois, ou 12 ans, les malades, alors ça, c'est vraiment dans le code, c'est vraiment, ça fait partie de choses courantes. Mais Wang rajoute deux autres catégories qu'à mon avis il a inventées, qui sont mince, j'ai un trou, excusez-moi. Les personnes mal vêtues et mal alimentées. Mal vêtues, mal alimentées. Affaiblis, les SDF en quelque sorte, enfin, les gens affaiblis par leur mode de vie. Et enfin, les gens qui viennent de se bagarrer, ou qui se sont bagarrés, sans doute parce qu'ils ont déjà pris des coups, ils risquent d'en mourir ou d'avoir des conséquences de ces coups et qu'il ne faut pas en rajouter. Donc il y a d'autres catégories aussi, les Mo-Ching-Ta, c'est ceux qu'il ne faut pas frapper à la légère, parce qu'ils ont un statut, notamment par exemple les membres du clan impérial, ou les gens qui ont certaines dignités, donc il ne faut pas utiliser la torture avec eux. Et les Wuhu-Diuta, c'est ceux qu'il ne faut pas frapper immédiatement, par exemple les gens qui sont ivres, on attend qu'ils dessoulent. Et puis, alors le plus intéressant, parce qu'on va le retrouver sous une forme beaucoup plus modélisée dans les autres conseils, notamment à travers les hexagrammes, ce sont des conseils qui s'adressent aux fonctionnaires à la première personne. C'est « wow ». Alors, quand est-ce que je ne vois pas, quand est-ce que je dois sursoir à l'usage des coups, à la torture, quand je suis en colère, quand je suis ivre, quand je suis malade, quand je suis dans le flou, je ne me souviens plus de l'expression exacte, mais ça veut dire quand je ne comprends pas très bien les tenants et les aboutissants d'une affaire. Et enfin, quand je suis irrésolu sur la conclusion à lui donner. En fait, ça fait double emploi, je crois que c'est vraiment pour faire 5, parce qu'il faut toujours que ça fasse 5 quand il s'agit des châtiments. Donc, dans le flou irrésolu, ça veut dire qu'on ne résout pas un cas à coup de bambou. Il faut vraiment avoir résolu le cas d'abord, et la torture ne peut s'appliquer qu'à partir du moment où on est certain du coupable, et que le coupable refuse de signer sa déclaration et d'avouer. Mais on ne doit pas, normalement, pratiquer la torture pour résoudre les cas. Donc, voilà le type de consignes qu'on trouve dans ce que j'appelle le pôle pratique de ce genre de traité. Mais ce qui m'intéresse le plus, vous avez bien compris, donc il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur ce pôle pratique, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le pôle que j'appelle doctrinal et que je vais essayer de définir maintenant. Alors, ce sont avant tout des citations classiques et des cas historiques. Et je dirais que alors, les citations classiques dans les ouvrages de gouvernement, c'est évidemment pas une originalité. C'est évidemment pas ça qui permet de définir un genre particulier. Mais ce qui est spécifique, à mon avis, à ce genre, c'est le type de classique qu'on rencontre, et tout particulièrement les deux premiers. Alors vous avez le livre des mutations et le livre de documents, quasiment toujours dans cet ordre, ou bien dans un ordre inverse. Mais je dirais que ces deux classiques et leurs liens sont très caractéristiques du genre. Donc le livre des documents et le livre des mutations, l'un étant quasiment l'illustration de l'autre. Et puis après, vous avez toute une série de classiques, Chokwan, etc., sur lequel on peut passer très vite. Et autre aspect, vous avez, alors toujours lié à ces classiques, des cas historiques, qui sont comme l'application, enfin qui présentent des cas d'application de ces principes classiques. Et dans le Dukuan Shenxinglu, on n'a pas vraiment de cas en tant que tel, mais à la place des cas, on va trouver des mémoires de réformes pénales et des exemples de bons fonctionnaires, Xinli. Et ces mémoires sont, à mon avis, particulièrement intéressantes, puisque c'est une espèce de collection de mémoires proposant des réformes du système pénal. Et notamment, on part de l'abolition des peines mutilantes de l'Antiquité, puisque dans l'Antiquité, les châtiments étaient mutilants, on avait ablation du nez, des oreilles, etc., on coupait même des pieds. Bon, tout ça a été aboli à plusieurs reprises, en fait, entre les Han et les Tang, et on trouve les mémoires de réforme ou les décisions impériales d'abolition de ces peines mutilantes. Et dans la foulée, on trouve des mémoires proposant l'abolition des peines cruelles, et l'un qui m'intéresse particulièrement, puisque j'ai travaillé sur cette question, c'est le mémoire demandant l'interdiction de toute peine cruelle pratiquée avec des lames de fer, Ting Jinju Qi Ku Xin Shu, présenté par Toyen en 946, et qui est la première mention du lyncheux, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français le supplice des sans-couteaux ou des...
Le démembrement.
Ou des démembrements.
Est-ce que... Non, elle n'est pas là, parce qu'elle avait des... Zhang Ning avait un conflit avec vous sur la...
Sur le dépècement. Dépècement, oui.
Dépècement, oui.
Moi, ça m'est égal. Mais l'expression française courante, c'est les 1000 morceaux, les 10 000 morceaux, enfin, bon, bref. Donc, c'est la première fois qu'on trouve mentionné, et on a une description, on sait vraiment qu'il s'agit de ce... Bien que le terme Lingxue n'apparaît pas, mais on sait que c'est cette peine-là, et ça apparaît à travers un mémoire qui demande son abolition. Et alors, on trouve toute une série d'autres mémoires, il y en a des dizaines, hein, notamment, enfin, j'ai pris celui-là quasiment au hasard, donc un mémoire qui demande le nettoyage des prisons et la modération des peines et par un fonctionnaire des Qing, et qu'on va retrouver dans les anthologies de la science de gouvernement. En effet, le genre dont je parle se diffuse littéralement dans toute une série d'anthologies, parmi lesquelles on peut citer par exemple The Justin Shu, qui contient une importante partie.
J'ai une petite question. Ouais. Est-ce que vous êtes sûr que Qing Yu, c'est nettoyage des prisons, ou c'est pas plutôt mettre de l'ordre dans tous les cas qui sont
non, dans là, tous les procès Si je me souviens bien, j'avais jeté un coup d'œil, c'est vraiment la prison, il me semble. Hein. Enfin, c'est à vérifier.
Non, parce qu'il y a une ambiguïté dans le mot Yu, qui peut être, signifie simplement les procès, ou alors les prisons.
Oui, tout à fait. Oui. Mais là, je crois qu'il s'agit bien de nettoyer les prisons.
Ça ne me paraît pas très convaincant.
De surveiller. Si, si, parce que parmi ces réformes, il y a, enfin, aussi parmi ces tâches pratiques du fonctionnaire, il y a le fait de surveiller les prisons, les prisonniers, etc. Je crois qu'il s'agit de ça ici.
Ou peut-être,
si je me souviens bien.
Mettre au clair l'administration des prisons plutôt. Non, parce que le nettoyage des prisons, on pense à envoyer des types avec des balais.
D'accord, oui, en ce sens-là, d'accord. Oui.
C'est ça
oui, enfin, disons, prendre garde que les prisonniers, enfin, la vie des prisonniers soit.
Non, d'accord. Purifier l'administration des prisons.
Alors, justement, j'ai une remarque sur le fait que dans la bibliographie, on ne trouve pas certaines anthologies, et notamment le Rangshao Dingshu Wenbian, où on va retrouver toute une liste. Alors, ce mémoire-là, par exemple, se trouve là et est passé vraiment dans donc, ce qui est la grande somme des savoirs de gouvernement. Et donc, notre genre, en quelque sorte, diffuse complètement dans ce qu'on appelle Dingshu, dont on a déjà parlé aussi, qui est la science de gouvernement à la chinoise. Alors, oui, donc on va passer tout de suite à l'aspect... J'ai sauté à une phase importante, qui est donc le gros plan que je compte faire maintenant sur cet aspect doctrinal à travers l'ouvrage principal, qui, à mon avis, est à l'origine du genre, celui de Wuna, le Xiangxin Yaolan, donc publié en 1442. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le Xiangxin Yaolan? Ce n'est pas une description générale, mais des éléments les plus intéressants. Donc, nos classiques... avec la prépondérance du shooting et du heading. Wuna met le shooting avant le heading, mais ce sont les deux classiques les plus représentés, avec chacun 6 articles. Et notamment nos 6 hexagrammes judiciaires que nous allons analyser bientôt. Et en parallèle, on trouve alors cette fois-ci des cas historiques qui sont le Tang Yin Pishe version Wuna. Le Tang Yin Pishe étant un vieux traité, une vieille collection de cas qui date principalement, enfin, qui a été réalisé sous les Song, mais qui rassemble des cas qui étaient bien antérieurs, et qui était, jusqu'à Wuna, en fait, un traité qui rassemblait, enfin, qui montrait principalement des juges perspicaces. C'est un petit peu le modèle du juge détective qui résout des cas et qui confond des criminels par sa perspicacité, sa sagacité. Or, Wuna va complètement transformer ce genre, il va lui donner une suite. D'abord, il va reclasser les cas, opérer des modifications au traité original, mais surtout, il va lui donner une suite qui est d'un esprit complètement différent, beaucoup plus confucéen, beaucoup plus moraliste, en tout cas, puisque la préface commence en disant qu'il va distinguer 13 exemples à suivre et 10 exemples à ne pas suivre. Il va donner 13 exemples de bons fonctionnaires et de bons juges qui ont réglé les cas de manière exemplaire et 10 exemples à ne pas suivre, des juges qui ont fait l'inverse. Et quand on lit ces cas, en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas affaire ni à des jugements, en majorité, ce sont ni des jugements, ni même véritablement des enquêtes judiciaires, mais des espèces d'historiettes qui mettent en valeur des qualités du juge qui sont principalement des qualités de bienveillance, et de bienveillance pratique, appliquée à des cas judiciaires. Alors, l'exemple typique et qui est reproduit vraiment dans un très grand nombre de traités qu'on rencontre, c'est une espèce de cliché, de tarte à la crème, si je peux m'exprimer ainsi, de ce genre, qu'on va retrouver un peu partout, c'est le Ouyang Wuhan, le juge sans haine. Alors, Ouyang, c'est le père d'Ouyang Xiu, donc très célèbre fonctionnaire des Song, qui a fait une très belle carrière. Et ce père d'Ouyang Xiu était extrêmement angoissé chaque fois qu'il avait à juger des cas capitaux. Et il se confia à sa femme pour lui dire qu'il cherchait systématiquement à sauver la vie. Tiu Shang, Bu Tiu Su, c'est-à-dire, il cherchait tous les éléments qui permettaient, même dans des cas apparemment de coupables avérés de crimes capitaux, malgré tout, à trouver une raison pour remettre la peine de mort, pour les sauver, afin de les maintenir en vie. Et ce cas, comme d'autres, hein, qui se trouvent donc dans l'ouvrage Tang Yin Picheux de Wuna, montre qu'en fait, derrière cette conception de chercher à tout prix à sauver la vie, on trouve les croyances karmiques dont parlait Pierre-Étienne Ville hier ou ce matin, hein, c'est-à-dire la croyance à la rétribution et le fait que si on commet des fautes judiciaires, non seulement on aura des problèmes de mérite et démérite dans cette vie, mais en plus on aura des problèmes dans l'au-delà, soi-même et la postérité. Hein, puisque les fautes que vous commettez retombent sur votre postérité. Et alors le cas se conclut, enfin le cas, l'historiette se conclut par le fait que les grands succès d'Ouyang Xiu, un des plus beaux exemples de réussite de fonctionnaires sous les Song, sont le résultat en fait de ces scrupules du père, qui, à chaque fois qu'il avait une peine de mort à prononcer, prenait toutes les précautions possibles. Et là, on a vraiment un cas qui montre la manière dont on cherchait à faire intérioriser par le juge cette notion de précaution dans le temps de l'emploi des peines, en lui disant que son salut, finalement, hein, son karma, son salut, était en jeu. Et là, on va trouver une cohérence doctrinale entre classique, cas et biographie, parce qu'on va retrouver ces conceptions-là dans les classiques et notamment dans les hexagrammes. On va voir que les hexagrammes sont une espèce de représentation de cela et aident en fait à incorporer ce genre d'exemple dans la mentalité des fonctionnaires. Alors j'ai une autre question pour l'ensemble de l'assistance, notamment pour Pierre-Étienne Ville, mais aussi pour tous les spécialistes des Ming. C'est le fait que j'ai été frappé quand même par la rencontre, la ressemblance entre cet ouvrage de Wuna et notamment l'emploi des six hexagrammes et le Tashu Yanibu de Chu Jun qui paraît une génération plus tard et où on va retrouver exactement les mêmes classiques et exactement les mêmes hexagrammes. Mais alors beaucoup plus fouillé parce que le traité de Wuna est en fait très court, c'est vraiment un manuel, alors que chez Chu Jun, c'est vraiment une somme, c'est-à-dire qu'on a tous les commentaires, c'est beaucoup plus important. Je voulais en parler un peu plus, mais évidemment, le temps l'empêche. Alors, on va passer le plus vite possible à ces hexagrammes. Quelques rappels très rapides sur le Yiding. Donc, il s'agit d'un classique chinois qui est reconnu comme classique, mais qui se présente de manière très particulière, puisque la trame de ce classique, c'est non pas du texte, mais une combinatoire de signes qui sont, au départ, donc, un signe yang, enfin, un trait plein, qui représente le principe yang, donc mâle, actif, etc., et un trait brisé qui représente les forces yin. Et ce yin et ce yang, comme vous le savez, ce sont les deux forces de base dont la combinaison est à la base de tous les phénomènes naturels, etc. Et ces deux traits, lorsqu'on en rajoute un pour former un trigramme, quand ces deux traits, enfin, le yang et le yin s'équilibrent en quelque sorte, donc on a quelque chose d'inerte. Mais quand on rajoute un trait yin ou yang, on a un ensemble de trois traits qui vont s'animer parce que ça va créer une dynamique par déséquilibre. On a 8 trigrammes et c'est la combinaison de ces trigrammes, de ces 8 trigrammes, qui va former les 64 hexagrammes. Donc c'est ça la base du yiding, c'est une combinatoire de type mathématique, ce qui avait beaucoup séduit Leibniz, comme vous savez peut-être, et qui semble fonctionner par elle-même de manière purement logique. Mais le problème, tout le problème pour nous, et c'est là tout l'intérêt du yiding, c'est que le classique comprend également tout un empilement de gloses qui portent sur cette combinatoire. Le commentaire le plus important pour nous étant celui qui va donner un titre à chacun de ces hexagrammes en faisant une figure ou un symbole en quelque sorte. Tout le problème étant de comprendre quel rapport il peut y avoir entre l'hexagramme lui-même, composé de traits, et puis cette figure, ce titre. Alors, il y a toute une série d'autres gloses, puisque qui porte alors sur les rapports entre hexagrammes, qui porte sur chaque trait en particulier. Enfin, bref, il y a toute une série et tout un appareil de glosses très important, mais qui ne nous concerne pas vraiment, parce que les juristes, en fait, n'emploient que ce qu'il y a de plus simple dans le heading, ça tombe bien. C'est-à-dire qu'ils emploient uniquement le commentaire de figure, qui tient en une ligne, c'est vraiment le commentaire le plus court qu'il peut y avoir, et ils ne s'occupent que de la combinaison de trigrammes, qui est également la combinaison la plus simple. Ils ne rentrent pas dans le détail du trait par trait, par exemple. Et on va voir que c'est déjà assez compliqué comme ça. Le chemin est rendu praticable grâce à deux ouvrages qui sont vraiment extrêmement utiles. La traduction du heading par Philastre, qui est également le traducteur du code des Qing. La meilleure traduction du code des Qing est celle de Philastre. Et il a aussi traduit le heading et les traductions de Philastre. Il traduit tout, c'est-à-dire il traduit les commentaires, les gloses, etc. Et il pose toute une série de problèmes très intéressants. C'est vraiment un très bon traducteur. Et enfin, l'ouvrage de Jacques Jernet est extrêmement utile puisqu'à travers l'analyse de Wang Fujie, en fait, il revient sans arrêt au heading et il donne un exemple d'application pratique du heading. Il montre comment ça permet de passer finalement du heading en tant que classique à l'application concrète, pratique que pouvait faire du heading des lettrés confrontés à un certain nombre de situations. Alors, voici les 6 hexagrammes judiciaires. Et j'ai mis ou 5 entre parenthèses parce que dans certains ouvrages, on n'en trouve que 5 et le joker, c'est le troisième, c'est-à-dire c'est celui-ci que lorsqu'il en manque un, c'est celui-ci. Et ce qui est frappant, c'est qu'on trouve toujours les mêmes hexagrammes, ce qui demande déjà une certaine cohérence, et qu'il y a des hexagrammes du heading qui en toute logique devraient être considérés comme hexagrammes judiciaires, en particulier son qui signifie procès, et qui n'est pas un hexagramme judiciaire. Ou il y a d'autres hexagrammes également qui font des allusions au système pénal ou au code pénal, etc., dont on aurait pu penser qu'ils pouvaient avoir une signification judiciaire, mais qui ne sont jamais cités par les juristes. Donc le fait que ce soit toujours les mêmes, avec des commentaires qui ne sont pas forcément les mêmes, mais qui développent toujours le même type de thème, démontre qu'il y a une cohérence doctrinale derrière tout cela qu'il va falloir essayer de saisir. Alors là, je vais vous infliger la lecture des commentaires d'hexagrammes tels qu'ils se trouvent dans le Xiangxing Yaolan. C'est pas très long, mais je crois que c'est intéressant d'avoir une vision générale avant de passer à une analyse un peu plus précise. Alors, tonnerre, éclair, shehe. Alors, ce que j'ai mis entre guillemets, c'est le sens le plus courant que peuvent avoir les caractères chinois. Donc, est-ce que ça veut dire manger et boire ou mâcher et avaler? Bon. Les premiers souverains promulguaient les lois afin d'annoncer clairement les peines. Ça, c'est le commentaire canonique qui est associé à cette figure. Et ensuite vient le commentaire du juriste. Les premiers souverains observèrent la figure combinant les trigrammes représentant le tonnerre et les éclairs et prirent modèle sur la crainte révérentielle qu'ils inspirent pour afficher clairement les châtiments dans les lois qu'ils promulguèrent. Donc, affichage des peines pour faire peur, pour infliger une crainte révérentielle. Bi, feu au bas de la montagne. Le caractère signifie brillance, élégance. Commentaire canonique, l'homme de bien qui administre les affaires courantes de manière éclairée craint de trancher les procès ou n'ose pas trancher les procès. Commentaire du juriste, un feu au bas de la montagne n'éclaire pas au loin. L'administration courante, ce sont en général de petites affaires, mais les procès pénaux peuvent être très importants. C'est pourquoi l'homme de bien craint de les trancher ou n'ose pas les trancher. Chier, tonnerre et pluie. Le caractère signifie libération ou explication. Bon, il y a beaucoup d'autres sens. Mais... Commentaire canonique, l'homme de bien pardonne les fautes et gracie les crimes. Commentaire du juriste, l'homme de bien considère les trigrammes représentant le tonnerre et la pluie qui constituent l'hexagramme et il comprend que son enseignement est la bienveillance et la bonté. Il met en application ses vertus en pratiquant le pardon et la grâce. Quatrième, tonnerre et éclair, tous deux à leur maximum, fin. Littéralement, ça veut dire quelque chose comme abondance. Commentaire canonique, l'homme de bien tranche les cas de manière éclairée en appliquant les peines. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre Jessing, en appliquant les peines à leur maximum. en appliquant toute la peine. Le jugement doit éclairer les faits et les circonstances, ça c'est le juriste. Appliquer complètement les peines vise à dissuader les malfaiteurs. C'est pourquoi, après avoir observé la figure, l'homme de bien applique complètement les peines dans son jugement. Cinquième, il n'y en a plus que deux, feu sur la montagne, lu, alors ça veut dire quelque chose comme voyage ou errance, commentaire canonique, l'homme de bien, afin d'éclairer sans doute les justiciables, enfin ceux qui assistent au procès, applique les peines avec précaution et ne maintient pas en prison. Commentaire du juriste, un feu sur la montagne est une lumière qui éclaire au loin. Voyant cette figure très brillante, l'homme de bien comprend qu'il doit user des peines avec précaution. Ainsi, c'est shenxing, on retrouve le terme shenxing, user des peines avec précaution. Ainsi, s'il ne peut faire autrement que mettre des gens en prison, c'est parce qu'il suspecte que ces gens ont commis des crimes. Comment pourrait-il les maintenir en prison indéfiniment? Alors, il faut savoir qu'on pouvait emprisonner non seulement les suspects, mais aussi les témoins, et les maintenir longtemps en prison. Donc là, c'est un hexagramme, mais on garde contre ça. Sixième et dernier hexagramme. Sur le marais, il y a du vent, jiangfu, qui signifie comme quelque chose comme confiance au milieu. Jiang signifie au milieu, et fu, c'est la confiance ou la foi, ou la fidélité interne. L'homme de bien, à l'issue des délibérations judiciaires, sursoit à la peine de mort. Ça, c'est le commentaire canonique. Et le juriste ajoute, lorsqu'il délibère sur les cas judiciaires, l'homme de bien... Ah ben je ne l'ai plus, tiens. Mince. Bon, enfin, voilà, il y a une glose qui dit que l'homme de bien fait très attention à sursoir à la peine de mort, à retarder la peine de mort. Alors, ces commentaires sont extrêmement limités et ça présente l'ensemble, donc ça donne une idée de l'ensemble de ces hexagrammes. On peut remarquer qu'il y a une espèce de balancement qui va être mise en lumière lorsqu'on va passer à l'analyse vraiment des trigrammes. Vous remarquez qu'on a, en quelque sorte, je parlais tout à l'heure de la comminution, c'est-à-dire de l'art d'utiliser les peines pour principalement les suspendre. Vous remarquez qu'on a deux hexagrammes qui correspondent à ce moment où on brandit les peines. C'est shereux, on promulgue les lois pour afficher les peines, et fin. L'homme de bien juge en appliquant les peines. Vous remarquez qu'on a également deux hexagrammes, le deuxième et le troisième, qui représentent le moment où, le moment inverse, c'est-à-dire le moment où le juge craint d'appliquer les peines. Ou le moment... Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. C'est le deuxième et le cinquième. Voilà. Le moment où... Non, je me trompe. C'est... Attendez, premier et quatrième. Oui, c'est le deuxième.
Le premier
et le
sixième.
Non, j'essaie de montrer ceux qui disent la même chose. Enfin, les deux hexagrammes qui disent à peu près la même chose, c'est-à-dire le premier et le quatrième, oui, c'est bien ça, hein, où on applique les peines. Celui où on craint de trancher les procès et où celui on punit avec précaution, hein, donc des hexagrammes qui représentent le moment où on menace, en quelque sorte, d'autres qui représentent le moment où on dit au juge « attention, il ne faut pas aller trop loin, hein, il faut craindre de juger et il faut punir avec précaution et ne pas laisser en prison », et enfin deux hexagrammes qui portent spécifiquement sur la peine de mort, ou en tout cas sur la grâce, hein, le sié où on pardonne les fautes et gracie les crimes, et celui-ci où l'homme de bien sursoit la peine de mort. Voilà. Donc on a une certaine cohérence, certains échos, et ça c'est ce qu'on va essayer de retrouver à travers les hexagrammes. Voilà maintenant les hexagrammes à proprement parler. Ils sont faits de, comme vous le voyez, de deux trigrammes. Alors, pardon, il faudrait peut-être mieux lire le texte d'abord. Oui. Pardon. Donc ça c'est un extrait d'un autre traité, un petit traité, Xinsa Zhongxu, qui n'est d'ailleurs pas dans la bibliographie encore. Il faudra peut-être l'inclure quand j'aurai trouvé les notes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous présente donc la cohérence entre les quatre premiers hexagrammes. She, He, Bi, Feng et Lu ont tous les quatre en commun le trigramme Li, qui représente le feu, la lumière, la foudre. She, He et Feng sont tous deux en commun le trigramme Zhen, tonnerre, ébranlement, terreur. Et Bi et Lu ont tous deux en commun le trigramme Gun, la montagne, obstacle, masse inerte. Bon, ça, c'est la description des trigrammes. C'est que dans les procès, le principal est de faire la lumière, car il faut d'abord se baser sur la réalité des faits, afin de ne pas faire un emploi abusif des peines. Mais si, en second lieu, l'on n'usait pas de jeûne, l'ébranlement, pour faire avancer l'instruction, il n'y aurait pas moyen de trancher de manière imposante. Ouais, c'est ce qui représente la menace. Donc. Et s'il n'y avait pas gun, la montagne, pour arrêter, comme force d'inertie, principe inhibiteur, on risquerait d'utiliser les peines ou la torture à la légère. Donc on voit qu'on a un équilibre qu'on essaie de soigneusement ménager entre différents impératifs. Alors c'est ce qu'on retrouve ici. Donc le caractère li, ou le trigramme li, qui représente la lumière, le feu, vous le retrouvez ici, ici, ici et ici. Donc il est partagé par les quatre hexagrammes. Vous avez aussi dans le résumé que j'ai donné un peu plus de détails sur les trigrammes. Et ensuite, on va avoir des différences au niveau des combinaisons. Donc, il y a ce caractère jen, qui signifie donc l'ébranlement ou la menace, qu'on retrouve ici et là. Alors que ici et là, on va retrouver gun, la montagne, qui est plutôt un inhibiteur. Alors, passons maintenant à l'analyse un peu plus détaillée. Vous remarquez que, enfin, ce qui est intéressant, ce sont les rapports entre hexagrammes. C'est-à-dire que l'hexagramme n'est pas seulement le symbole de quelque chose, mais le symbole d'un développement ou d'une série de mutations. Et les mutations, elles peuvent se lire de plusieurs manières. Donc, par exemple, entre ces deux hexagrammes qui se suivent, vous remarquerez avec un peu d'attention que cet hexagramme est comme le renversement de celui-ci. C'est-à-dire que celui-là est le premier retourné tête bêche. Et c'est la règle générale, un hexagramme qui en suit un autre et son renversement. Autrement dit, le heading, c'est un peu la révolution permanente. On passe d'hexagramme en hexagramme, on effectue un tour complet, enfin une inversion complète. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue plus pratique? Ça veut dire que l'hexagramme qui suit est un correcteur de la tendance de l'hexagramme précédent. Avec Chereux, on avait le moment où vraiment le plus menaçant, celui où on brandit les peines, celui où on menace. Et avec Bi, par contre, on a le moment où le juge n'ose pas juger. Hein, on craint de prononcer la peine. Et c'est la même chose avec Feng. Feng, c'était le moment où on applique toute la peine, Jixing. Et par contre, Lu, c'est le moment... Ça y est, j'ai un trou, je ne me souviens plus, excusez-moi. Oui, c'est le moment où on applique les peines avec précaution. C'est vraiment le moment de Shenxing et où on ne maintient pas en prison. Donc, lorsqu'on va dans ce sens-là, on a un correctif, chaque hexagramme étant le correctif de la tendance précédente. Et on peut aussi procéder de cette manière-là, et en effet, c'est ce que fait, c'est ce que font nos juristes, en fait. Parce que ce que je viens d'expliquer, c'est vraiment la routine du heading. C'est-à-dire que chaque utilisateur un peu initié au heading, c'est très bien qu'en passant d'un hexagramme au suivant, on va avoir un retournement. Donc ce n'est pas tellement la peine de commenter ça. Par contre, ce qui est intéressant de commenter, et ce que vont faire les juristes, c'est commenter le passage de cet hexagramme à celui-là. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, on voit qu'on a une inversion entre les deux trigrammes. Ici, Li qui représente la lumière est au-dessus, et Jen qui représente l'ébranlement est en dessous. Enfin, l'ébranlement, c'est-à-dire la menace, en fait, est en dessous, alors qu'ici, c'est l'inverse. Et ici, Li, qui représente la lumière, est en dessous, et Gen, qui représente la montagne et l'inhibition, est au-dessus, et là, c'est l'inverse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, d'un point de vue pratique? Oui, j'ai déjà lu cet extrait. Donc, on comprend mieux le raisonnement qui est suivi ici. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de montrer à travers ces hexagrammes, c'est que l'impératif général de la justice, c'est de faire la lumière. Donc il s'agit toujours de rester axé sur les faits et de juger d'après les faits qui ont été commis. Mais qu'il va y avoir différents impératifs qui vont être le fait que, d'une part, il faut que la loi reste la loi, donc reste inquiétante, continue à être menaçante en quelque sorte. Et donc, on a une espèce de dialectique, enfin de renversement ici entre le côté faire de la lumière sur les faits et le côté inquiété par la loi. Et ici, le fait que ce désir de faire la vérité sur les faits doit être tempéré également. Il ne faut pas aller finalement, enfin, il faut essayer de rester prudent dans l'application des peines. Et c'est ça que représente Gunn, la montagne, qui est un inhibiteur. Alors, de manière plus précise, on va prendre l'exemple de cet hexagramme bi qui est glosé feu au bas de la montagne. Alors, pourquoi feu au bas de la montagne? Eh bien, parce que, vous le voyez ici, le li, qui est donc l'élément de lumière, de feu, d'éclair, etc., se situe en dessous. Hein, le trigramme li se situe en dessous du trigramme ken. Alors, donc, la glose classique de cet hexagramme, c'est feu au bas de la montagne, et le commentaire canonique dit ne pas oser juger. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue judiciaire et juridique? Ça ne veut pas dire mettre fin au procès sans le juger. Le juge a beau prendre toutes les précautions, il sait que malgré cette lumière que lui apporte son enquête, ces feux ne portent pas au loin. Il craint que la lumière n'atteigne pas toutes les circonstances, que certains faits restent dans l'ombre et que son verdict soit donc forcément injuste. Et user de formules de style pour maquiller la situation, voilà ce que l'homme de bien n'ose pas faire. Alors pourquoi cette allusion aux formules de style? Eh bien parce que là, on passe en fait, sans crier gare, d'une analyse qui repose sur les trigrammes, sur la figure elle-même, au sens du caractère bi, qui signifie élégance, brillance et aussi ornement, raffinement. Et on a donc un certain nombre de gloses qui vont venir s'ajouter à cet aspect, donc à la signification de bi comme ornement. Et voilà un autre commentaire que j'ai tiré d'un autre traité, qui dit la chose suivante: l'homme de bien contemple la figure, donc toujours la même, bi, et comprend l'avertissement, n'use pas de formule littéraire ornée au cours du procès. Le livre des rites dit, emploie toutes les capacités intellectuelles, épuise tes réserves de probité et d'amour. Le livre des documents dit, attention, prends garde, l'application compatissante des châtiments exige la plus sincère compassion, et non qu'on leur préfère des formules ornées. Les hommes de peu d'intelligence sont vaniteux et pleins d'eux-mêmes, ils ne savent rien de la vigilance qu'exigent les audiences judiciaires, ils usent de propos obscurs, de calomnies subtiles, ils manipulent les documents pour compromettre les innocents, ils ont toute confiance en leur propre lumière, ils ne savent pas le mal que peut faire un procès. Donc on est passé en fait d'une espèce de schéma de ce que doit être l'état d'esprit du juge, qui doit équilibrer le désir de faire la lumière et en même temps se retenir, pour ne pas employer des moyens extrêmes, la torture, etc., à un avertissement sur le fait que le juge ne doit pas employer de formules, ne doit pas s'en tirer finalement, ne doit pas remplacer l'analyse des faits et le fait de faire la lumière concrètement sur les faits réels par des formules plus ou moins creuses qui masquent le fait qu'il n'a pas été capable de trancher l'affaire. C'était en effet une chose assez courante et assez souvent reprochée aux juges. Je crois qu'il faut que j'accélère, non? Ça va au point de vue timing?
Oui, vous avez encore quelques minutes.
Encore quelques minutes, d'accord. Alors oui, on va passer, je suppose qu'il y aura des questions sur ces aspects. Donc passons directement au dernier hexagramme, qui est le plus intéressant en fait, et d'une certaine manière le plus sympathique, puisque c'est celui qui prévoit ou qui ordonne de retarder ou de sursoir à la peine de mort. Le terme chinois c'est huanse, donc on ne sait pas exactement si c'est la retarder ou bien purement et simplement l'abolir. Alors là on a affaire à un hexagramme qui est fait de trigrammes complètement différents des autres, alors que les autres étaient liés entre eux. Celui-ci est complètement à part. On a donc un trigramme in, parce qu'il a un trait brisé à la base, donc la tendance in de mi, qui représente le vent et les influences du vent. Une des gloses courantes, c'est 12 pénétrations, 12 influences du vent. Et un autre trigramme, qui est un trigramme yang, trait de basse plein, qui représente les vapeurs chaudes, le marais, mais le marais qui est connoté positivement, hein, avec des influences positives. Il faut penser au marais avec des poissons qui représentent la vie, ça représente la joie, etc. Bref, un signe très positif. Et voici comment ce trigramme, cet hexagramme, pardon, est glosé dans ce classique que j'ai déjà cité tout à, enfin dans ce traité, pardon, que j'ai déjà cité tout à l'heure, qui est le Zhe Yu Zhe Yan. Alors là, j'ai mis la citation en chinois. À vrai dire, la citation en français ne pouvait pas rentrer, donc je la propose à nos collègues chinois. Et je vais vous lire la traduction en français. Sur le marais, il y a du vent. Zhongfu.
De l'eau.
Non, sur le marais, il y a.
Zhechang Yoshu.
Ah, mais oui. Zhechang. Alors, soit je me suis trompé. Bon, d'accord, en effet, de l'eau. Zhongfu. L'homme de bien, à l'issue des délibérations judiciaires, sursoit à la peine de mort. Pour les crimes passibles de décapitation et de strangulation, on distingue les peines d'exécution immédiate, donc Li Due, et celles avec attente en prison, Dian Hou. Attente en prison, cela signifie qu'on sursoit à la peine de mort, Huan Se, qui est vraiment le commentaire canonique de la figure. Quant à la figure Zhongfu, quel est son sens ? Fu, alors ça veut dire foi, confiance, sincérité, fidélité, véracité, a deux sens. Alors, donc, fu, ça veut dire fidélité, et zhong, ça veut dire au milieu. Donc, ça peut être interne. Le premier est sincérité par le plein, ou conviction intime par examen des faits, et le second est sincérité par le vide. Alors, les deux expressions, c'est yishe wei fu, yishe wei fu, qui peut se traduire par confiance dans le plein ou dans la vérité. Et en fait, c'est le fait d'établir sa conviction sur des faits, sur du solide. Et Yishu Waifu, c'est l'inverse, c'est-à-dire la fidélité ou la conviction établie sur quelque chose de vide. Et le vide ici est un élément positif, c'est quelque chose comme le Sushin, l'esprit vide ou l'impartialité, l'absence de préjugés. Et donc ensuite, le traité va donner un exemple qui montre ce qu'il veut dire par Sushin. Mais en fait, pour comprendre ce que je viens de lire, il faut peut-être revenir à l'hexagramme et voir qu'en fait, on glose les deux trigrammes, mais plus exactement, on glose la figure très particulière de cet hexagramme, qui représente donc du plein, le che, le plein, ce sont ces traits yang qui sont de chaque côté et qui ferment l'hexagramme, et le vide, c'est ce qui est au milieu, par les deux traits yin. Donc, en fait, on ne fait que gloser cette apparence, c'est-à-dire un trou au milieu, hein, qui va représenter le vide où va s'établir la confiance ou la conviction progressive du juge, à partir de traits pleins qui peuvent représenter, par exemple, la réalité des faits ou l'enquête. Alors, voyons maintenant la suite, c'est-à-dire l'exemple qui est donné. Lorsqu'un scélérat a commis des actes inhumains, celui qui le juge peut ressentir en son fort intime de la colère ou de la haine. Mais si la loi ordonne de prononcer une peine de mort avec sursis, le juge peut alors être enclin à hâter l'exécution. C'est ce qu'avaient prévu les saints ou les sages lorsqu'ils disposèrent en guise d'avertissement la figure Zhongfu. La figure est toute pleine avec juste un vide au milieu. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Le sens de la figure est l'eau qui est dans le marais, s'il y a du vent, est agitée. Quand il n'y a plus de vent, elle s'immobilise à la différence du Yang Zhejiang ou du Huang He, qui continue à couler, qu'il y ait du vent ou non. Ainsi, au moment de juger, sans oser garder à l'esprit la moindre intention préconçue, sans conserver en soi ni amour ni haine privée, ni être mu par sa haine pour le crime, je pense que c'est ça, je pense qu'il y a un balancement entre les sentiments personnels et la haine pour le crime. C'est. Où est-ce que c'est la haine pour le crime ? C'est Di Wu, il faut bouillon. Je pense que c'est le. Oui. Donc la haine pour le crime, il aura dans la poitrine un grand vide et il restera impartial, Wu Xin. C'est ça la notion essentielle. Il restera impartial ou sans intention. Ainsi, même pour un crime qui mérite la mort, ou pour un criminel qui mérite la mort, il se conformera à la sentence prévue par la loi, sans chercher à hâter la mort. Alors, c'est un exemple un peu naïf et emprunté donc à la procédure courante sous les Qing, qui est celle de distinguer entre des peines de mort d'application immédiate et des peines de mort où les condamnés vont attendre en prison jusqu'aux assises d'automne, où on va réexaminer leur cas. Mais donc c'est un exemple pratique qui vise à illustrer, en quelque sorte, le sens de la figure, qui est celui que l'homme de bien sursoit à la peine de mort. Et là, on retrouve de manière, en action ou en situation, tout l'idéal donc, que j'ai décrit tout à l'heure, qui est le fait qu'un bon juge doit chercher à sauver à tout prix la vie, même des condamnés à mort, c'est-à-dire même des gens qui mériteraient la mort d'après la loi. Alors, quelques réflexions rapides en conclusion sur ces traités en général, et en particulier sur ces hexagrammes qui me paraissent vraiment très révélateurs du genre. Un genre donc, qui est caractérisé par la cohérence doctrinale entre principe et pratique, et je dirais que c'est un genre vraiment juridique, et j'y tiens, puisqu'il y a toute une tradition juridique, et tradition sinologique, pardon, et également juridique, qui tend à dire qu'il y a sans doute des lois en Chine, on ne peut pas dire le contraire, on trouve des codes, etc., mais il n'y a pas vraiment de droit au sens où il n'y a pas de pensée juridique, il n'y a pas de théorisation, et il n'y a pas... Donc je crois qu'ici, on a affaire à vraiment un ensemble doctrinal. Ça ne veut pas dire qu'il est bon, ça ne veut pas dire qu'il est de qualité extraordinaire, mais on a vraiment un effort d'élaboration doctrinale qui guide la pratique. Donc c'est ce qui m'intéresse dans ce genre. Mais je pense qu'il est également intéressant d'un point de vue didactique, alors qu'il est plutôt l'aspect général de la bibliographie de Pierre Etienneville, dans la mesure, premièrement, où il y a une méfiance évidente envers le discours. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps de développer, mais qui est très clair, par exemple, quand on lit Gernet. Je crois qu'il y a une volonté de développer la science des indices. Quand on parle de Cheux, par exemple, c'est vraiment essayer de concentrer et de synthétiser toute une science des indices qu'on trouve très bien dans les descriptions d'enquêtes, par exemple. Et on va essayer de passer directement de ces indices à des transcriptions en signe. Je crois que c'est à ça que servent les hexagrammes. On essaye de formaliser directement tout ce qui peut être indice, alors sous forme de tableau, ou sous forme de charte, sous forme de schématisation, en évitant au maximum de développer par le discours. Parce que le discours est presque forcément trompeur. Soit il entraîne l'erreur, soit même il entraîne la tromperie, enfin vraiment. Donc on essaye, je crois qu'il y a une méfiance fondamentale envers tout ce qui est discursif. Il y a une espèce de parti pris anti-logos que Gernet développe assez bien aussi dans son livre. Donc on va essayer de montrer les éléments les plus naturels. Et je crois que justement les hexagrammes essayent de montrer le cheminement du raisonnement du juge et toute l'activité judiciaire en essayant de produire ça comme des forces naturelles, comme la dynamique du yin et du yang, afin d'éliminer au maximum la décision personnelle argumentée sur du discours, ce qui est évidemment très étranger à notre manière de raisonner. Et je crois ensuite que ces hexagrammes doivent se lire comme une tentative pour représenter des chaînes d'action visant à ce que la bonne pratique soit incorporée en situation. Alors là, je m'inspire un petit peu de tous les développements de Bourdieu sur l'habitus, et notamment dans son sens pratique. Pour aller vite, disons, Bourdieu dit qu'est-ce que c'est que connaître le football. Il y a plusieurs manières. On peut lire les règles. Mais ça, c'est la connaissance de l'arbitre. Ça, c'est les lois. On peut comprendre les règles du football. Mais ce n'est pas vraiment connaître le football. On peut également lire des parties. Ça, c'est la connaissance du lecteur de l'équipe. On peut lire des parties de football. Mais la véritable connaissance du football, si on voulait essayer d'influer dessus, enfin d'essayer de la transmettre par l'écrit, comment est-ce qu'on s'y prendrait? Là, il faudrait avoir recours à toute une série de choses qui seraient plutôt du domaine de la représentation, un petit peu comme par exemple on transmet la connaissance des arts martiaux ou de la calligraphie. Et je pense que ces hexagrammes, c'est le genre de connaissances qu'ils essayent de transmettre. C'est-à-dire qu'ils essayent de mettre le juge en situation. Attention, vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez avoir des dilemmes. Il va y avoir plusieurs impératifs contradictoires qui vont se présenter à vous. Voilà comment on peut les schématiser, et voilà comment vous devez vous y préparer, et voilà comment vous pouvez essayer de les résoudre. Et en ça, c'est un modèle didactique, mais qui est très particulier, et qui est particulier à ce genre de traité. Voilà, j'ai fini. Thank you.